Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs. Travailler sur la relation homme-animal en archéologie, ce n'est pas uniquement s'intéresser à l'interaction entre deux êtres vivants, mais c'est aussi comprendre comment l'un d'entre eux, en l'occurrence l'homme au sens large du terme, se perçoit dans le monde. En effet, l'archéologie de la relation homme-animal consiste à rendre compte des produits fabriqués par l'homme pour se protéger de l'animal, le tuer, se l'approprier, le symboliser, le déifier, l'animal devenant en fait ainsi un des moyens servant à matérialiser les réactions humaines. Ne pouvant pas exposer l'ensemble de notre travail dans le temps imparti, nous nous proposons de développer une problématique précise qui nous permettra de mettre en lumière l'ensemble de la démarche. C'est donc sur le consensus qui fait toute figure symbolique un symbole mâle, même si aucun indice ne permet de sexer l'animal, que nous allons travailler. En particulier, nous nous demanderons si ce consensus est vérifié par l'analyse et quelles sont les conséquences de sa vérification. Nous vous y répondrons en abordant la méthode employée pour identifier les différentes représentations bovines dans l'iconographie syrienne de l'âge bronze, puis nous poursuivrons avec la façon que nous avons eu d'aborder la croyance dans cette étude pour en venir enfin aux conséquences des deux points précédents. Donc commençons par la présentation de la méthode avec un rappel en fait de la logique de raisonnement propre à l'analyse iconographique. Nous sommes partis en fait du matériel archéologique pour chacune des pièces, en nous posant la question de savoir s'il y avait présence de l'animal recherché sur l'ouvrage. Pour ce faire, nous avons eu recours à la zoologie en premier lieu, puisque même si nous avons un point de vue archéologique, autrement dit une étude d'analyse en fait des objets fabriqués par l'homme pour l'homme, travaillant sur l'animal, il nous fallait pouvoir avoir des critères quantifiables et objectifs qui nous donnaient la zoologie, avec l'inconvénient pour cette démarche en fait que les données étaient actuelles. C'est la raison pour laquelle nous avions eu recours aussi à la paléozoologie et à l'archéozoologie, afin d'avoir, d'une part, l'assurance de la présence effective de l'animal dans la zone géographique concernée, à l'époque qui nous intéressait, et aussi voir si, donc, justement, entre les données actuelles et les données anciennes, nous avions concomitance. Enfin, l'iconographie et la philologie apportaient des informations complémentaires dans le processus d'identification. À partir de là, nous voyons si donc, nous avons bien l'animal recherché sur l'ouvrage. Si ce n'était pas le cas, nous vérifions si le document pouvait apporter d'autres informations. Dans la négative, le matériel ne pouvait être utilisé et donc nous revenions à un nouveau matériel. En revanche, si nous avions des informations, voir si l'animal était bien représenté, alors nous en venions à l'analyse archéologique puis aux propositions. Concernant donc, pour revenir sur la méthode d'identification, un certain nombre de problèmes se sont imposés à nous. Donc juste, nous reviendrons sur ces documents, juste pour rappel, cette figurine sous poids provenant de Gary est identifiée comme un veau. Cette figurine provenant de Marie comme un taureau portant la terrateur. Celle-ci venant des Blas comme étant un mouton. Et sur cette empreinte de carte péniche, l'ensemble des éléments au niveau du registre inférieur, ont été identifiés comme des caprinés. Pour pouvoir donc identifier ces animaux, nous avons eu recours à une multitude de critères dégagés des données zoologiques, parfois donc des animaux actuels ou pour certains, d'où l'intérêt de l'archéozoologie, de la paléozoologie, d'animaux reconstitués. Nous avons dégagé des éléments qui permettaient de pouvoir les identifier. Le tableau étant plus important, nous avons fait juste un rappel en bas pour indiquer comment fonctionnait en fait cette utilisation des critères d'identification, tout simplement sous la forme de présence-absence, autrement dit dans ce cas-ci, des ongulés, donc cornus dans le cas de ce mémoire, pour ceux qui avaient une bosse cervico-thoracique, ne pourraient correspondre qu'aux aigus. Donc pour revenir sur les exemples que je vous ai présentés tout à l'heure, il est certain que dans des cas comme ceci, l'identification est impossible puisque nous ne disposons pas de critères objectifs qui permettent de pouvoir reconnaître l'animal. Il peut autant s'agir d'un bovin que d'un chien ou d'un mouton. En revanche, dans le cas de cette figurine, le motif de l'inongulé qui se retrouve sur une autre figurine pendant des blagues où là on peut reconnaître effectivement un veau ongulé, début de corne, dissocié des oreilles et mufle, permettrait à terme si effectivement vous vérifiez la systématique de l'inongulé sur les bovins, reconnaître effectivement dans ce cas-ci où l'animal est incomplet s'il s'agit bien d'un bovin ou non. Dans le cas de l'empreinte de carte péniche, Si l'on regarde attentivement ces représentations, nous voyons que les cornes sont dirigées vers l'arrière et que la queue est petite, à l'inverse de cette représentation où la queue est longue, comme bien vu comme anglais, et les cornes sont dirigées vers l'avant. Autrement dit, ici, nous n'avons pas un capriné, mais un bovin. Donc, pour terminer sur les questions d'identification, nous voulions insister sur la démonstration iconographique comme effectivement apport quand la zoologie ne pouvait y répondre. Sur ces empreintes de Telbrack, nous avons là donc un saut avec un lion. Alors, comme nous n'avions pas de cas d'école du côté des bovins, nous avons présenté celui qui est le plus représentatif et qui concerne les félins. Donc là, nous avons des lions de profil, reconnaissables à leur longue queue, les griffes, la crinière. Et sur ces deux documents-ci, nous avons en fait des figures beaucoup plus stylisées qui seraient, avec d'autres moyens, impossibles à cerner. Alors nous avons deux empreintes intermédiaires. Nous avons bien effectivement ce contour avec la joie arrondie, nez, pâté, les oreilles et la crinière. Et là, nous avons en l'occurrence bien des lions. Et cette même face se retrouve sur cette empreinte-ci, avec donc le contour qui se termine en bâche arrondie, nez épaté, les oreilles, si ce n'est pas, il n'y a pas la crinière, donc là nous avons affaire à des lions, motif que nous retrouvons sur cette empreinte-ci. Donc, ayant vu l'identification qui nous permet de pouvoir travailler, venons-en au concept des croyances telles que nous l'avons abordé dans cette étude. De façon générale, en fait, la croyance est généralement cantonnée en religieux. Si nous reprenons pourtant la définition de ce terme, la croyance est le reflet de l'acceptation d'une vérité dont on n'a pas cherché à éprouver le bien fondé. De ce point de vue, le sacré, en tant que sentiment individuel de ce qui transcende l'humain, tout comme le profane, en tant que sentiment individuel de ce qui fait le quotidien de l'individu, peuvent relever de la croyance. Car dans un cas comme dans l'autre, l'acceptation d'une vérité dont on n'a pas cherché à prouver le bien fondé trouve sa place sur la base de la construction d'une idéologie. Le fait d'associer la croyance à une idéologie est fondamental car cela implique de travailler nécessairement sur une construction humaine, ce qui signifie avoir la possibilité d'en retrouver les différentes phases de construction. Autrement dit, travailler sur l'animal et les croyances, c'est travailler sur les idéologies véhiculées au moyen de l'animal, quelle que soit la forme sous laquelle ces idéologies se présentent, images, manipulation d'ossements, écrits. De plus, il ne faut pas oublier que l'être humain ne crée pas et extrapole à partir de son environnement immédiat. La source de l'idéologie qui donnera naissance à la croyance en est certainement racine dans ce que l'être humain aura observé, vécu, puis extrapolé de cette observation de ce vécu. La croyance n'est pas le fait de symboles qui la naissance, mais trouve son origine dans le monde matériel. Toute la difficulté étant de retrouver les observations, les éléments de l'environnement à l'origine de la formulation idéologique, à l'origine de la croyance. Autrement dit, l'archéologue en général se situe à ce niveau-ci, où la croyance effectivement est formalisée en symbole, ce sur quoi il va travailler. Donc, toute la difficulté étant, par l'analyse archéologique, de revenir à l'élément d'observation quand cela est possible, voire dans notre cas, en fait, d'au moins arriver à identifier ce que le sens, à la présence d'un sens sur ce qui a été produit. Pour illustrer ce propos de quelques exemples, nous en avons quatre à présenter, dont le motif de Rosette, ou sur cette photographie sur le front, en fait, très visible là en l'occurrence, mais nous avons effectivement l'implantation des poils qui crée un motif d'étoile sur les bovins, et pour le lion, nous avons juste derrière l'épaule la présence effectivement par l'implantation des poils d'un motif en rosette que l'on va retrouver dans l'iconographie sérielle. Avec un des lions de Marie qui présente bien derrière son épaule ce motif de rosette et sur une des peintures de Marie, le motif de rosette sur le front de l'animal. Cette donnée physiologique en fait commence donc à, sur un de ces moules de Marie, se déplacer sur le dos pour terminer en transposition purement symbolique à être sur l'arrière-train de l'animal, sur ces fragments en fait, d'un fauteuil d'Ebla. Donc là, nous avons un déplacement clair entre le physiologique et le symbolique. Pour faire le lien avec ce qui va suivre, ce motif étant associé en général au monde astral et justement en relation avec le ciel, les bovins et la forme de leur corne ont, surtout pour l'acier, nous observons la lune en croissant en bas comme ça, un lien possible effectivement, tout comme pour le lion, entre sa crinière et sa couleur jaune, une relation avec le disque solaire. Si l'on poursuit en fait donc, sur ces associations, Il est à noter qu'à l'équinoxe de printemps, le Soleil est à l'intérieur de la constellation du Taureau, et qu'au solstice d'été, le Soleil est à l'intérieur de la constellation du Lion, sachant que aussi, et pour ce qui est des dates, en tout cas ce qui correspond à notre époque, ce qu'il faudrait savoir, c'est aussi s'il en était de même en Syrie. Or, François Furodangin avait commencé à travailler sur ce sujet et avait mis les deux éléments en parallèle. Donc, si on considère effectivement la transposition symbolique, on peut très bien avoir un soleil fécondateur où le bovin illustre cette phase de la saison et le soleil destructeur où ça sera le lion. Autrement dit, on peut se poser la question de savoir si les confrontations de lion et les successions bovin-lion peuvent être en relation avec une succession des saisons. Alors, évidemment, un certain nombre de matériels ne vont pas dans le sens de cette idée, puisqu'on peut avoir des associations justes, lion-bovin, où un lion attaque un bovin alors qu'un autre être humain l'attaque aussi, voire un lion attaquant d'autres animaux. Il se trouve que dans la Grèce antique, l'étoile de la chèvre, vue dans la constellation du cocher, annonçait la saison des orages et des pluies. Et que donc cette observation astronomique, en fait, a été traduite par la représentation de la chèvre comme étant le symbole de l'éclair de Zeus. Or, il se trouve que pour la Syrie, nous avons cet intérêt pour les saisons dans la mythologie ugaritique avec le mythe de Baal et d'Évoras. Donc, c'est une hypothèse qui est à envisager, qui serait intéressante de creuser. En autre exemple, le rapport entre le symbolisme et la provenance géographique, où nous avons des visions à l'époque de la Jubronce, qui proviennent des montagnes du Zagros, et la divinité solaire, Shamash, qui émerge des montagnes de l'Est. Et nous constatons effectivement l'association du bovin rocéphale et du bovin barbu, et on se demande si ce n'est pas la représentation du bison, qui est un symbole de Shamash, en particulier en fait le symbole des montagnes, d'où émerge le soleil. Toujours cette relation au concret. Dernier exemple, le symbolisme comme critère de sélection. Nous avons un certain nombre de représentations, quatre représentations provenant de Marie et de Garit, où nous avons un triangle sur le fond des bovins. Or, ce triangle, nous le retrouvons aussi en Égypte, comme l'avait souligné Cochery, pour le culte d'Apis, autre divinité bovine, qui était reconnu sur Terre comme étant marqué en fait un certain nombre de signes, dont le triangle. Et Cochery se demandait savoir si ces signes n'étaient pas un moyen de reconnaître les bovins les plus aptes au travail. Or, il se trouve que le professeur Sambros fait la remarque suivante concernant les élevages aujourd'hui. Le connaisseur va du premier coup faire entrer l'aspect général du bovin. Ainsi, la conformation physique d'une vache laitière s'inscrit dans un triangle. En revanche, les races bouchères, elles, ont un tronc qui, vu de profil, a une forme triangulaire. Donc, encore une fois, ce rapport, que l'on peut par contre déterminer, savoir s'il s'agit de la marque de l'animal en lui-même, c'est-à-dire un triangle sur le front, ou si c'est un moyen de fournir une indication à l'éleveur qui devra reconnaître pour les races à sélectionner la forme triangulaire générale de l'animal. Mais dans tous les cas, un rapport à, disons, le symbole a bien un sens qui véhicule donc en fait un aspect concret de la chose. Bien, donc je reviens sur cette idée de la croyance formalisée en symbole avec l'intérêt de retrouver en fait l'observation de départ. Bien, passons en fait au second point, au troisième point, je veux dire, qui est la synthèse en fait de l'ensemble de ces données. Sachant que la question qui se pose, donc, à partir d'une fois qu'on a implanté, qu'on a pu identifier l'animal, une fois que l'on a vu comment on allait prendre le domaine de la croyance, et en particulier du symbolique, qu'en est-il de cette association du bovin, d'une identification du bovin en tant que symbole mâle ou en tant que figure mâle de façon générale ? On constate deux éléments, en fait, seulement un tiers du document présente un bovin sexué sur et une dissociation entre une représentation physiologiquement sexuée et une représentation symboliquement sexuée. Pour revenir sur chacun de ces deux points, donc déjà le fait que sur 74 documents, seulement 29 présentent des bovins sexués qui sont reconnaissables soit à la pénis, soit à la touffe de poils sous le ventral pour les mâles, soit au pied ou au veau allaitant la vache pour les femelles. En fait, un certain nombre d'autres documents ne présentent pas de sexe. Or, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que si effectivement on avait bien une relation entre l'image du bovin et un symbolisme mâle, on aurait, en tout cas une figure mâle, on aurait pris la peine de sexuer 29 documents et pas les autres. Second point, que nous avons pris de la figurine de Terrafagé pour l'illustrer car elle représente un cas d'école, même s'il ne provient pas de Syrie, on reviendra après sur le document syrien. Si nous tenons consensus actuel en archéologie, cette figurine serait à identifier comme étant un bourrin mâle. Elle porte la barbe, la coiffe à cornes. Or, il se trouve que si on prend la peine de l'observer plus attentivement, on reconnaît sans peine un indice qui permet de savoir qu'il s'agit bien d'une femelle. Pour faire le lien donc, avec les documents provenant de Syrie, nous avons un document provenant des Mares, une empreinte de Ougarit et la stèle d'Ishtar à Ella, qui montre aussi en fait, cette une ambivalence sexuelle entre le biologique et le symbolique. Pour les lions des Mares, nous avons donc, sur ces fragments, alors griffes, le corps de robe unie, longue queue avec la queue de poil et crinière sur les deux documents. Nous avons bien faire des lions. Or, celui de gauche a des testicules qui sont absentes de celui de droite, mais qui présentent en revanche une vulve, un orifice donc, qui est associé à la vulve. Et nous avons présenté ici les lions de Tel Aradum qui présentent aussi bien cette distinction entre le pénis et la vulve, qui montre bien que nous avons des figurines, des représentations de lions au Proche-Orient, manifestées par la vulve. Or, il se trouve que, donc, biologiquement parlant, en tant que lion, symboliquement parlant, masculin, féminin, ou inversement, on peut très bien considérer que ceci en fait, est l'indice biologique, ceci est l'indice aussi biologique, et qu'en fait, le reste sont des indices symboliques. Cette ambivalence sexuelle, on la retrouve aussi où la divinité, en l'occurrence la déesse, est associée au lion et au bovin, alors que, selon le consensus, normalement, la divinité est censée être associée au félin, au lion en particulier. Alors, on pourrait penser qu'en l'occurrence, elle maîtrise les deux aspects et donc montre sa puissance autant sur l'aspect masculin que féminin. Or, sur la stèle d'Ishtar, on a en fait une association uniquement au bovin, autrement dit un animal qui normalement est dévolu à la divinité masculine. Donc, nous avons en fait synthétisé cette relation entre sexe biologique et sexe symbolique dans ce schéma. Et l'importance de cette distinction est que nous avons en fait ainsi la place à la sexuée. Cette ambivalence sexuelle en fait met donc en évidence le jeu sur le caractère biologique et symbolique des sexes et oblige à concevoir qu'une représentation asexuée a une signification qui biologiquement dépasse la représentation d'un être défini par ses mâts ou ses organes génitaux. Ne pas sexuer une représentation est donc une démarche volontaire, pouvant figurer la représentation d'une entité idéale, intégrant l'ensemble des qualités mâle, femelle, masculin, féminin, ou des deux à la fois, dans une évocation donc, symbolique qui reste à définir pour chaque représentation. En conclusion, donc, de cette étude de cas extraite de l'ensemble de notre travail, il apparaît clairement que l'association d'étiquettes mâle, masculin et représentation bovine n'a pas pu d'être systématique pour la Syrie de l'âge du bronze. La conséquence directe de l'absence de relation systématique entre une représentation bovine et un caractère mâle est l'impossibilité de mettre en évidence celle-ci comme l'antithèse masculine des représentations symboliquement féminines, et encore moins de statuer sur une viralisation de la société, ainsi que pouvait le proposer Job Covin à juste titre pour le néolithique syrien. La révolution des symboles connaîtrait donc dans la Syrie de l'âge du bronze un nouveau mode d'utilisation des bovins et des félins. À la place, il serait intéressant de vérifier si les figurations animales asexuées peuvent traduire la représentation non d'un être physique, mais d'une entité idéale incorporant soit les caractéristiques masculines, soit les caractéristiques féminines, voire les attributs en dignité auxquels ces entités sont associées. Je vous remercie.